Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Christine Renaud, qui est déjà venue plusieurs fois sur le plateau de RDWA pour parler de choses et d'autres. La dernière fois, c'était pour parler d'aide à la parentalité. Aujourd'hui, elle est venue avec une autre casquette, car elle anime une fois par mois un atelier de découverte de la vie intérieure qui s'intitule « L'assise immobile et silencieuse ». Christine Renaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai fait un rapide raccourci. On pourrait peut-être commencer par le début, parce que vous n'êtes pas la seule à enseigner de l'assise. Et donc, peut-être pourriez-vous nous rappeler à quelle tradition se rattachent vos ateliers, par exemple ?
Alors, l'assise immobile est une pratique hebdomadaire que nous avons dans notre école, parce que donc, je fais partie d'une école de la vie intérieure, fondée par Bernard Montault, il y a bientôt, je crois, 30 ans. Et Bernard Montault a mis en pratique l'enseignement de Gita Malache, qui, elle, a reçu un enseignement des anges pendant la guerre avec trois de ses amis. Voilà, donc un livre, Dialogue avec l'ange, est paru. Et Bernard a eu à cœur de mettre dans le concret, dans la vie ordinaire, une pratique spirituelle qui puisse emmener chacun à ce pourquoi il est fait sur Terre. Voilà, avec différentes étapes. Donc cette école contient bien sûr un programme, une pédagogie, différentes matières. Et l'assise immobile est la pratique de base que nous pratiquons toutes les semaines.
Avant de passer dans le concret, rappelez-nous un petit peu ce bouquin qui effectivement est assez connu dans les milieux spiritueux. De quoi parle-t-il ? Ça veut dire quoi, un dialogue avec l'ange ?
Alors, c'était pendant la guerre en Hongrie. Gita et trois de ses amis, qui étaient tous des artistes et qui se posaient des questions essentielles sur la vie, dans le chaos, dans la guerre, dans le nazisme, se posaient des questions entre eux, sur le sens de leur vie, le sens de tout ce mensonge, de toute cette cruauté. Et donc, ils cherchaient et ils parlaient entre eux. Bon, je vous passe un peu les détails, mais au cours d'une de leurs rencontres, à un moment, Anna, qui était là, a dit « ce n'est plus moi qui parle ». Et donc, elle a parlé, mais elle sentait très bien que la parole qui lui venait, venait de quelqu'un d'autre, d'une conscience supérieure, on va dire, ou d'un autre être, et qui répondait aux questions qui étaient là et à leurs interrogations. Et ces entretiens ont eu lieu toutes les semaines, pendant 18 mois. Voilà. Et ils étaient dans une urgence de guerre, de survie et de compréhension du sens. Gita est la seule survivante de ses quatre amis. Ensuite, elle est restée en Hongrie, elle a vécu le communisme, elle a vécu des choses très très difficiles. Et puis, elle a eu l'opportunité de venir en France parce qu'elle était, elle accompagnait les ballets. Et donc, en France, sa tâche a été de mettre par écrit et de faire vivre ce message reçu par les anges. Voilà. Elle a rencontré Bernard Montault, ou Bernard Montault l'a rencontré, on va dire. Et ensuite, Bernard a beaucoup accompagné Gita dans toutes les conférences. Il lui a organisé des conférences en France et à l'étranger pour diffuser ce message-là. Et lui, ensuite, a fondé sa propre forme pour mettre dans le concret, dans le quotidien, dans un enseignement spirituel adapté à nous aujourd'hui, cet enseignement de dialogue avec l'ange qui va être la recherche de la vérité en nous. Au-delà de nos commentaires, de nos jugements et de notre perception, nous, de notre monde, quelle est la vérité profonde en chacun de nous ? Comment aller chercher ces intuitions et ensuite les incarner ? Je vous fais un peu un raccourci, mais j'étais venue m'entretenir avec vous il y a quelque temps sur ce sujet parce que nous avons projeté à l'aube le film « Dialogue avec l'ange ». Et donc, il y a une interview
Sur RDWA, sur ce sujet.
Avec Bérénice.
C'est intéressant. Personnellement, je ne vois aucune contre-indication au fait qu'il puisse exister des anges, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et une spiritualité qui découlerait d'enseignements canalisés par des gens, vous avouerez que ce n'est pas si commun que cela. On n'est pas en Inde où n'importe qui peut mettre sur la porte de sa chambre. Ici, Dieu, c'est des assertions qui ne sont pas forcément assimilables par tout le monde. Comment pourriez-vous nous convaincre de la pertinence du fait que des anges aient pu à un moment particulier de l'histoire, entrer en communication avec l'espèce humaine par le canal de quelqu'un?
Alors, je ne vais pas chercher à vous convaincre, parce que ce n'est absolument pas mon rôle, et puis je ne suis pas à cette place, je ne vois pas de quel droit je chercherai à vous convaincre. Simplement, c'est quand on lit les dialogues, on est touché ou pas par des phrases qui nous parlent ou pas et qui nous renvoient nous-mêmes à notre propre vérité. Voilà. Et que ensuite, tous les enseignements de toutes les spiritualités s'appuient sur les traditions. On n'a pas inventé quelque chose un jour. C'est que tout est en filiation et nous, on s'inscrit aussi dans la chrétienté. On est aussi dans cette filiation-là.
Cet ange était un ange en particulier ?
Alors, le mot ange, Gita ne l'aimait pas trop, je crois, au départ. Pour elle, c'était des messagers. Mais en fait, ce ne sont pas des personnes extérieures à nous-mêmes, avec les petites ailes, comme on peut les voir. Hein. Non, c'est une partie en nous qui sait la vérité. Voilà, c'est aller chercher en nous cette partie-là. C'est un autre plan de conscience, on pourrait dire. Nous, on fonctionne dans le plan de conscience de l'ego, le plan de conscience du moi. Mais ce n'est pas l'aboutissement de l'homme. L'homme a aussi à vivre d'autres expériences spirituelles plus élevées, d'autres niveaux de conscience. Et donc, les anges appartiennent à d'autres, à un niveau de conscience supérieur.
Ce channeling, ce canal, s'est passé dans les années de guerre, vous dites. Est-ce que ce bouquin est toujours d'actualité ? Parle-t-il toujours autant à l'humanité ?
C'est un livre qui est lu dans le monde entier, parce qu'il a été traduit dans le monde entier et il touche ou pas certaines personnes, mais même dans notre monde d'aujourd'hui. Alors je vais redire une petite chose que j'avais dit à Bérénice. Il existe une revue qui s'appelle Reflet, qui est une revue d'un autre regard sur l'actualité. Et à chaque trimestriel, il y a un témoin du monde ordinaire, on va dire, ou du showbiz, qui vient témoigner de sa recherche personnelle. Et il y avait un trimestriel sur pourquoi une vie spirituelle aujourd'hui. Et entre autres, Juliette Binoche avait livré un témoignage. Et Juliette Binoche a dialogué avec l'ange constamment auprès d'elle. C'est un livre qui l'éclaire, c'est un livre qui la nourrit. Voilà, il y a, je me permets de la citer, elle, parce qu'elle a fait une interview, mais il y en a plein d'autres, et des gens très ordinaires. On a pu découvrir comme ça qu'au Brésil, il y a des gens qui s'inspirent de ce livre, Dialogue avec l'ange, pour leur vie quotidienne. Ah, donc c'est un livre universel. Mais encore faut-il avoir envie de faire une démarche intérieure et de se poser ces questions-là. C'est pour ça que je ne cherche pas à convaincre.
Très bien, votre réponse est tout à fait satisfaisante. Le prosélytisme peut être particulièrement déplaisant de temps en temps. Néanmoins, c'est pas que j'ai envie de spéculer, mais moi je l'avais parcouru ce bouquin et je vous prie de m'excuser de me livrer un tantinet à l'antenne, mais c'est vrai que j'ai fait énormément de méditation et les quelques écoles de méditation qui m'ont réellement marqué, il n'y a pas trop de décorum. C'est un combat, je parle de combat avec soi-même. On s'ausculte, on débusque ce que l'on est ou ce que l'on croit être. Et il n'y a pas tant de rituels, il y a juste soi avec soi-même. Or, dans mes souvenirs, qui sont très parcellaires, je dois en convenir, je ne vois pas, mais vous avez dit que M. Manteau avait fait une adaptation, je ne vois pas en quoi ça peut être la structure d'une discipline spirituelle.
Alors, le livre Dialogue avec l'ange n'est pas une structure spirituelle telle qu'elle. Bernard Manteau, au cours de ses dialogues personnels, a eu des réponses personnelles sur comment traduire cet enseignement dans le concret. Et c'est cet enseignement qu'il a mis en place dans cette école. Mais que ce soit les arts martiaux ou que ce soit toute pratique spirituelle, il y a des rituels et des symboles qui nous portent. Voilà. Et donc, dans Arthas, nous avons des rituels, des symboles, un enseignement particulier à cette école. Et puisque vous faites référence à Dialogue avec l'ange, moi je vais vous citer aussi un autre livre qui est le recueil de ces concepts et qui est La psychologie nucléaire, que Bernard Manteau a écrit avec ses plus proches collaborateurs et où sont expliquées justement les bases du fonctionnement psychique humain pour qu'on puisse se repérer dans notre intériorité. Comment est-ce qu'on fonctionne ? Quel est le cycle comportemental qui nous anime, on va dire ? Et ensuite, on a chacun, c'est un schéma. Et ensuite, on a chacun à découvrir le sien, le propre, comme vous disiez, qu'est-ce qui nous habite. Et ensuite, découvrir comment est-ce qu'on peut transformer ce comportement pour accéder à une autre partie de nous-mêmes qui sommeille en nous. C'est cette partie-là aussi, l'ange. Le traduire aussi comme ça.
Donc, c'est bien ce que je disais. Enfin, c'est mon interrogation, c'est de ce bouquin, Monsieur Manteau a... Non, c'est pas ça.
C'est
non.
Pas du livre, parce qu'en fait, Gita a écrit ce livre, mais surtout, Bernard a vécu avec Gita, au quotidien. Et donc, il l'a vu évoluer. Il l'a vu mettre elle-même en pratique ces dialogues. Il l'a vu chercher, elle, sa vérité. C'est cet enseignement qui l'a imbibé, lui et son épouse, Patricia Monteau, qui, elle, a créé une autre voie, qui enseigne également les dialogues. Et en plus de ce livre des dialogues avec l'ange, ce qui est très aidant, c'est de pouvoir lire les petits livres qui sont sortis ensuite. Il y a 4 petits livrets explicatifs, parce que justement, beaucoup de lecteurs faisaient ce type de remarque à Gita, en disant « mais c'est très hermétique, comment est-ce que moi je peux l'utiliser et le mettre dans ma vie ?» Et donc elle a écrit des petits livrets explicatifs, où elle-même, elle reprend certains passages des dialogues, à quel endroit elle, ça l'a touchée, et ensuite, qu'est-ce qu'elle en a compris, elle. Et ensuite, chacun a à faire ce décodage aussi pour lui, s'il est touché ou pas.
Donc, en fait, il y a véritablement, comme vous le dites, des rituels, des pratiques assez précises. Est-ce que vous pourriez un peu, sans trop... est-ce que nous faire une espèce de synthèse de ce qui est proposé dans ce...
Alors, c'est déjà, possible ou pas ? Cette école, moi je vais le faire à ma façon, ça sera très certainement incomplet, mais...
Voilà. Assumez votre subjectivité.
Donc, une école de la vie intérieure, c'est pour apprendre à se connaître, à faire la paix déjà avec soi-même pour pouvoir mieux vivre avec les autres au quotidien. Et une fois cette paix faite, chercher peut-être secondairement qu'est-ce que je vais faire de ma vie, à quoi je vais servir sur Terre, pourquoi est-ce que je suis venu là et comment est-ce que je vais l'incarner. Donc, c'est une recherche personnelle et l'école va proposer un menu à la carte. Comme dans un restaurant, on a différents plats, et bien là, il y a différentes matières qui ont une cohérence les unes entre les autres, mais chacun est libre de prendre ses matières ou pas en fonction de son besoin. Et la pratique de base, qui est l'assise immobile, c'est par le corps, dans l'immobilité et le silence, apprendre à mieux se connaître, à mieux sentir comment on fonctionne, pour pouvoir transformer, c'est-à-dire transformer un mal-être en mieux-être, mais pas le transformer artificiellement. C'est-à-dire que dans la vie, quand quelque chose nous dérange à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'éliminer. Là, c'est rester devant cette question ou ce problème ou cet inconfort et chercher en nous, mais c'est quoi qui me fait mal, vraiment, là ? Chercher le sens de cette douleur ou de cet inconfort et ensuite pouvoir le transformer en ayant vu où est-ce que ça avait trait dans notre histoire, ce fonctionnement, cette douleur, par exemple. Je croise quelqu'un dans la rue ou je croise mon collègue et en fait, il me dit bonjour, mais je me rends compte qu'il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a même pas vu. Voilà, là, ça me blesse. Je me dis, mais moi, je suis inexistante, je suis transparente. C'est moi qui le lis comme ça, avec mes yeux, à moi. De voir que ça m'appartient à mon histoire, je vais pouvoir être beaucoup plus tranquille avec ce collègue et peut-être aller le voir un moment après en lui disant, tiens, tout à l'heure, on ne s'est pas bien dit bonjour, ça m'a manqué, cette rencontre. Plutôt que d'aller lui dire « dis donc, j'existe pas pour toi, tu m'as même pas dit bonjour ce matin ». On sent bien que c'est pas la même énergie. Il y a une énergie de guerre, une énergie de paix. Nous, on va chercher à cultiver cette énergie de paix. En passant par le corps, parce que quand on a un inconfort ou une douleur dans le corps, plutôt que de la rayer, on va s'intéresser à ça. Et parce que le corps incarne qui on est dedans aujourd'hui. Mmh. Voilà. Donc c'est un travail personnel. Bien sûr, de recherche, avec des outils. Mais je ne peux pas tous vous les développer. C'est pour ça qu'il y a des ateliers mensuels pour venir tester l'assise immobile. Quel effet ça fait ? Comment est-ce que je peux l'utiliser ? Être un peu plus curieux de ça. Et après, le reste peut venir.
Ce que vous venez de dire se retrouve dans d'innombrables pratiques différentes sur l'assise immobile. A-t-on eu besoin d'un ange pour nous le rappeler ?
C'est une vaste question, tout ça. Mais bien sûr qu'il y a d'innombrables pratiques, et tant mieux. Tant mieux s'il y a plein de pistes pour pouvoir chercher à mieux vivre avec soi et mieux vivre avec les autres et construire un monde plus en paix. Mais bien sûr, moi je vais vous parler de l'école et de la pratique que j'ai depuis plus de 20 ans. Je ne peux pas vous parler des autres écoles, mais bien sûr que toutes les autres écoles sont très très riches. Les arts martiaux sont un support très très riche pour ceux qui ont envie de cette voie-là. Donc toutes les voies, bien sûr.
Donc, si j'ai bien compris, l'assise immobile est quand même le centre de votre pratique.
C'est la pratique hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, on va s'offrir une heure de silence et d'immobilité pour se poser dans nos vies courantes et agitées, faire le point sur nous-mêmes et laisser émerger soit les problèmes de vie courante qui nous polluent la vie et auxquels on pourrait s'intéresser et prendre du temps pour ça, voir comment on fonctionne dans ces problèmes-là et quelles solutions on pourrait trouver. Voilà, il y a ça. Et puis, voir dans son corps, qu'est-ce qui nous habite aussi ? Voilà, si on a toujours le même mal de dos, mais c'est quoi ce mal de dos qui revient tout le temps? Ça me parle de quoi? Alors bien sûr que le cliché, c'est j'en ai plein le dos. Voilà, mais j'en ai plein le dos de quoi précisément? Et ils vont nous arriver des situations très très précises, des endroits où on est mal à l'aise dans la relation avec l'un ou l'autre, ou des choses comme ça. Ça va nous permettre de mettre à jour et de pacifier notre vie autour de nous. C'est vraiment une école pour mieux vivre au quotidien, avec nous-mêmes et avec nos proches.
Alors, vous n'êtes pas la première à me dire qu'il faut observer la douleur, qu'elle va m'enseigner quelque chose. Mais par exemple, si j'ai mal au genou, oui, si je l'observe pendant suffisamment longtemps, il va me parler, mon genou, c'est ça?
Le genou, par exemple, le genou va vous parler par rapport à qu'est-ce que ça me fait dedans. Ça me tiraille, ça me brûle, ça m'écrase. Ah oui, je me sens écrasée. Écrasée. Tiens, écrasée, c'est quoi? Ben voilà, et ça fait partie. Après, en cherchant un peu plus loin, de plus loin, on va se dire, mais j'ai déjà vécu des situations comme ça, où je me sens complètement écrasée. Le genou, c'était le révélateur, c'est le miroir. L'assise, elle va faire miroir. Et ensuite, eh ben, on va voir comment, dans notre cycle comportemental, on se débrouille pour se faire écraser. Voilà, parce que c'est pas les autres. Ça aussi, c'est un grand principe. C'est qu'on va pas aller changer les autres, mais c'est à nous de faire le clair en nous et d'être plus propre avec nous. Voilà, donc, comment je me débrouille pour toujours être écrasée? Ah bah oui, bah je me sens toujours inférieure. Bah, de toute façon, je n'ai pas droit à la parole. Bah oui, mais si on se comporte comme ça, c'est qu'on a bien appris ça quelque part. Et on s'est construit comme ça, pour une raison. On a un outil que l'on utilise, puisque vous parliez d'outils, alors je vais vous en citer un comme ça, c'est travailler avec nos souvenirs. C'est-à-dire que quand on a une douleur comme ça qui nous monte, mais c'est de se poser la question et de se dire « mais quelle petite fille ou quel petit garçon ça me rappelle ?» Si on est sincère et qu'on cherche vraiment, va émerger de notre subconscient un souvenir. Au début, c'est un peu nébuleux, mais vraiment, si on rentre dedans et qu'on s'y intéresse, on va se revoir, petit garçon ou petite fille, dans une situation très particulière où on s'est fait écraser parce qu'on a dit un mot qui nous paraissait beau. Voilà, et puis on s'est fait écraser. Et que ça a été tellement douloureux qu'à partir de là, on s'est dit, je ne dirai plus jamais rien ou je m'écraserai. Voilà, parce qu'il vaut mieux s'écraser plutôt que de subir ça. Et de voir que mais c'est traumatique, c'est un comportement que nous, on a appris comme ça, mais que ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut sortir de ce fonctionnement. Pas en réaction, mais en aimant ce petit en nous, en lui disant des mots de vérité de ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Les souvenirs sont d'une richesse incroyable. Quand on s'intéresse à ça. Mais dans la vie courante, c'est difficile. Une heure par semaine, s'asseoir, c'est pas un luxe, c'est quelque chose, c'est une hygiène. Voilà, c'est un mot ça qui me fait, que j'aime beaucoup, c'est l'hygiène psychique. C'est ça qu'on essaye d'instaurer aussi.
C'est une heure par semaine, ça suffirait?
Ah ben, ça suffirait.
Est-ce que vous pouvez méditer plus, enfin vous asseoir plus, je veux dire?
Alors, nous on n'appelle pas ça de la méditation. Voilà. Bien sûr que le but, ça va être de méditer et d'arriver à un état de conscience plus élevé. Hein. Mais ça va être de passer par le corps ou le psychisme et de voir les inconforts qui nous traversent pour pouvoir les traiter, mais pas en faire abstraction. Mais bien sûr qu'une fois qu'on a goûté à ça et qu'on voit que ça marche pour cette heure d'assise où on s'est dit « mais jamais je vais rester une heure assise, j'ai trop mal » et puis qu'en fait on se rend compte que la douleur, elle est subjective. Une fois qu'on a vu ce que c'était, c'est passé. Eh bien on va avoir envie de le mettre dans son quotidien. Et par exemple, un autre petit outil de la vie quotidienne que tout le monde peut utiliser, qu'on soit dans une voie spirituelle ou pas, c'est mettre des petits moments de silence dans sa vie, de silence et d'immobilité. Quand on a une décision à prendre, plutôt que de la prendre en courant, simplement s'asseoir, se poser, faire le calme dedans et aller chercher cette décision avec le meilleur de soi plutôt que le pire. Voilà. Le matin, quand on part, on va rentrer dans sa voiture. Avant de mettre la clé dans la voiture, pourquoi pas se poser simplement sur ses deux pieds, tranquille, chercher son silence intérieur et faire ce geste autrement. C'est petit à petit faire rentrer du silence et une certaine immobilité dans nos vies. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être assis sur un zafou avec les mains en élévation et que tout le monde nous regarde. Bien au contraire, c'est une pratique personnelle. Donc une heure, bien sûr que c'est une base, mais comme quelqu'un qui veut jouer du piano, s'il s'entraîne une heure par semaine, il ne va pas devenir virtuose. Donc après, on aura les résultats en fonction de l'entraînement, entre guillemets.
Et donc, en plus, vous proposez aux gens qui suivent cette technique, cette pratique, de vous asseoir en commun. Donc là, je vois le mercredi 11 juin à 19h, il y aura un atelier de découverte dans lequel un certain nombre de pratiquants de cette technique, pas de cette technique, je sens que vous allez...
De cette pratique. C'est pas une technique.
Non, j'entends bien. De cette pratique, sont conviés à s'asseoir ensemble.
Parce que c'est pas une technique, c'est pas une recette de cuisine. C'est Voilà, c'est une pratique. Donc nous, nous nous réunissons tous les mercredis à 21h pour une heure de pratique. Donc il y a une heure d'assise immobile. On est tous dans le groupe avec un rituel et des symboles. Et ensuite, nous avons une heure de cercle ensemble où l'enseignant va aider les personnes qui ont des questions par rapport à leur pratique. C'est pas un moment où on va donner des conseils en disant « t'aurais dû faire ça ou ça », mais essayer d'éclairer un peu plus le problème vu ou la pratique vue. Donc ça, c'est de 21h à 22h30 à peu près. Et une fois par mois, j'organise donc un atelier découverte à 19h où j'accueille les personnes qui sont intéressées pour leur expliquer un certain nombre de bases, leur faire tester le silence et l'immobilité, voilà, jouer avec ça. Et ensuite, si elles le désirent, elles peuvent rester à notre pratique habituelle en tant qu'observateurs. Et ce, les observateurs peuvent venir pendant plusieurs semaines, gratuitement, en nous prévenant, participer à ces soirées d'assises. Et au bout d'un certain nombre de semaines, on va leur demander de se situer. Soit ça les intéresse et ils vont plus loin, soit ça ne les intéresse pas et voilà. Et autant aller chercher une autre voie, quoi. Mais s'ils sont venus, c'est qu'ils sont en recherche de quelque chose. Et que par rapport à notre école aussi, il y a quelque chose qui me vient, j'en parle maintenant, parce que pour découvrir aussi un peu mieux la totalité de l'école, puisque là, dans ces soirées, c'est l'assise, mais on balaye aussi les autres matières, on a des week-ends découvertes de l'école Arthas, et il y en a un ce week-end à l'aube, où pendant 2 jours, un enseignant va faire tester de l'assise, bien sûr, mais aussi présenter toutes les matières de l'école, et répondre à toutes les questions des personnes qui sont là. Donc les observateurs sont invités de toute façon, avant d'adhérer, on va dire, à l'école et de rentrer, de faire un week-end découverte pour qu'ils puissent mieux sentir quel est le but de cet enseignement, quels en sont les moyens, et ne pas se fourvoyer dans quelque chose qui va les décevoir, où ils vont dire « mais non, mais c'est pas ça que je cherchais, ou je m'attendais pas à ça ». C'est aussi quelque chose de clarifiant.
Y a-t-il beaucoup de gens qui suivent cette pratique ?
Actuellement, il y a, je crois, 490 adhérents sur toute la France, Suisse, Belgique et autres pays, et 45 groupes de pratique en France, à peu près. Voilà. Donc, ce sont des personnes de tous âges et on s'aperçoit que de plus en plus de plus jeunes viennent. Parce que souvent, c'est dans la crise de milieu de vie, 40-50 ans, qu'on se pose des questions et qu'on a envie de chercher. Et que donc, c'est un âge où on va se mettre en route, on va dire spirituellement. Mais on s'aperçoit que de plus en plus de plus jeunes cherchent un sens à leur vie et cherchent à mieux vivre, quoi, à mieux comprendre ce qui se passe dans l'intériorité. Quoi. Voilà.
Oui. Alors, c'est une pratique laïque. Vous ne disposez pas d'un clergé ou d'une hiérarchie ?
L'école est dirigée par un collège d'enseignants qui sont les collaborateurs les plus proches de Bernard Montault. Bernard Montault a transmis son enseignement. Au départ, c'est lui qui gérait toute l'école, bien sûr. Et devant le nombre croissant, c'était plus possible pour lui seul. Donc, il a élargi au collège des enseignants le plus proche. Et les enseignants les plus proches, ce sont ses collaborateurs, c'est-à-dire les personnes qui ont été proches de lui dès le départ, dans cette aventure. Parce que c'est un enseignement qui n'est pas figé. C'est un enseignement qui évolue et qui continue d'évoluer et de s'adapter. Voilà. Par exemple, est née depuis l'année dernière une section, on va dire, Arthas jeune. C'est-à-dire que c'est un Arthas particulier qui va s'adresser aux jeunes jusqu'à 35 ans, parce qu'ils ne sont pas dans la même problématique que quand on a 40 ou 50 ans, où on a déjà établi ces 3 réussites, sociales, affectives, matérielles, à un certain niveau, certes, mais là. Alors qu'à 20 ans ou 25 ans, on est complètement dans cette réussite de l'ego, du moi, et qu'il faut leur donner des outils et des pratiques adaptées à cet âge-là, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a une branche qui s'est un peu spécialisée dans Arthas jeune. Donc, il n'y a pas un clergé ou il n'y a pas, je ne le sens pas. Mais par contre, pour revenir au mot secte, parce que c'est normal qu'on se pose la question, en tant qu'être humain, c'est sain. Mais c'est très typiquement français aussi, puisque dans les années 70 ou 75, on faisait des recherches spirituelles, on faisait plein de stages, on faisait plein de choses. Moi-même, avec mon mari, on a fait des recherches. On ne nous qualifiait pas de secte. Et puis, il y a une peur. Dès qu'on touche à la vie intérieure, on ne sait pas, ça cristallise aussi des peurs et on va être embrigadé dans un mouvement. Bon, nous, on est un mouvement où on est transparent. Voilà, s'il y a des questions par rapport à ça, mais on est prêt à y répondre, si on peut y répondre.
Il est exact, pendant une époque, dans toute une frange de la société, s'occuper de soi-même était mal vu, alors que justement la clé est dedans. Hein.
Oui.
Nous sommes relativement d'accord, j'ai du mal à l'admettre, mais
oui.
Si. Vous avez un slogan quand même qui est « Oser l'aventure intérieure
oui. »
pour apprendre à passer du pire au meilleur de soi. Vous pensez qu'il est possible quand même de se changer ? Car je voudrais vous reprendre un petit peu, vous avez parlé de prendre conscience d'eux. Mais entre le moment où on prend conscience qu'il y a quelque chose qui se passe de travers, il peut se passer un grand moment avant que cette chose change. C'est comme un paquebot qui s'aperçoit qu'il y a un iceberg en face de lui. Il le sait, mais le temps qu'il tourne la barre, il y a l'inertie, etc. Donc, juste pour terminer, un petit adage taoïste qui est « Il est très difficile de détordre la queue du chien ». Alors, comment expliquez-vous que la conscience puisse nous changer ?
Alors, on ne va pas chercher à se détordre, déjà, mais on va chercher à connaître quelle est notre imperfection. Parce que nous sommes tous des imparfaits. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on cherche à être parfait. Mais la perfection, elle n'est pas de ce monde. Donc, ça va être de chercher à découvrir quelle est la nature de notre imperfection et devenir des imparfaits heureux, en admettant qui on est, en se connaissant, en s'aimant dans nos faiblesses, voilà. Mais en ayant le courage de ne pas toujours, on va dire, le plus possible, de ne pas succomber à toutes ces faiblesses, mais à plutôt chercher à s'élever au-dessus de ça et à les transformer. Mais ce n'est pas se détordre. C'est justement dans les outils, dans les matières de l'école, il y a un outil, ça va vous faire bondir, mais ça sera un autre sujet, qui s'appelle la psychanalyse corporelle. Et c'est une technique qui a été mise au point par Bernard Montault, puisqu'il est lui-même kiné, ostéopathe, et qu'il a découvert au fil de ses consultations quelque chose qui l'a vraiment intéressé, comment le corps pouvait permettre d'exprimer des douleurs, des sentiments, sans que les gens forcément y mettent des mots. Donc il a poussé cette recherche-là avec des amis qui faisaient des arts martiaux à côté de lui, donc qui était vraiment très engagé par le corps, et avec l'aide de Gita, bien sûr, puisqu'il vivait avec Gita Malache. Et donc la psychanalyse corporelle est une des matières de l'école, enseignée dans l'école et en dehors de l'école, pour permettre à chacun de se réconcilier avec son histoire personnelle et aller découvrir nos différents traumatismes. Voilà. Donc ce n'est pas chercher à se redresser, mais à mieux se connaître, comprendre, aimer, pour pouvoir ensuite le transformer. Mais imparfait, heureux, c'est un slogan de base, si vous voulez un slogan. Passer du pire au meilleur de soi, c'est ça. C'est apprendre à sourire sur notre propre misère, notre propre bêtise humaine.
Donc il y a de l'espoir en fait, hein ?
Mais bien sûr, toujours.
Quand bien même, justement, on se réveillerait après la crise de la soixantaine, on aurait en plus 10 ans de retard par rapport à la crise de la cinquantaine, on se réveille, on dit « Oh zut, il est temps que je me change, c'est encore possible ». On n'est pas ossifié par des habitudes, des patterns, etc. On peut encore changer.
Moi, changer, c'est pas le mot qui me va.
Ah, on peut encore s'aimer.
S'aimer, s'améliorer, être mieux avec les gens autour de nous, avec soi et mieux aimer. La vie, c'est fait pour aimer et aimer de plus en plus large, de plus en plus grand. Mais la première personne que l'on a à aimer, c'est soi-même.
Et oui, parce que tous les matins, on se réveille avec soi quand même. Hein. On a intérêt.
Tous les matins, on se réveille avec soi. Eh ben, je vais vous faire un petit cadeau aussi avant de partir. Vous parlez d'un outil que l'on a également et qui s'appelle la toilette psychique. Parce que je vous parlais d'hygiène tout à l'heure, et que pour nous c'est quelque chose de fort, dans le sens qu'il est normal aujourd'hui de se laver les dents et de se laver, et que l'hygiène a fait des progrès énormes en 100 ou 150 ans qui ont sauvé des vies. Et maintenant, pour nous, c'est des habitudes quotidiennes. Et est-ce qu'il ne serait pas l'heure aujourd'hui de s'occuper d'une hygiène de l'esprit après l'hygiène du corps et mettre en nous des habitudes quotidiennes d'hygiène ? Donc, je vous ai parlé des petits temps de silence et d'immobilité dans la journée, mais il y a aussi la toilette du soir. C'est-à-dire que le soir, avant de s'endormir, et si on se lavait de nos jugements ? Parce que le pire ennemi de nous-mêmes, de nous, c'est nous. C'est tous les jugements, tout le mal qu'on pense de nous, et donc forcément, comme on pense du mal de nous, on pense du mal des autres. On s'accuse, on se juge. Et bien, c'est le soir, avant de s'endormir, repasser sa journée à l'envers et remonter les différents événements qui nous viennent et voir à quel endroit on n'est pas fier. Il y a des endroits où ça coule, puis il y a des endroits où on n'est pas très fier. On se dit, oh là là, celui-là, là, je l'ai engueulé, putain, c'était pas bien, quoi. Plutôt que de se juger en disant, putain, t'es con, t'aurais dû faire autrement, c'est de se dire, comment j'aurais pu faire autrement ? Là, on fait appel au meilleur de soi. Et on se refait le film dans sa tête, en positif, on va dire. Et on remonte jusqu'à ce qu'on s'endorme. Eh bien, nos nuits sont différentes une fois qu'on s'est lavé de tous ces jugements. Et nos matins sont différents aussi. Parce que c'est vrai que le matin, c'est rare qu'on se lève en se disant « Waouh, aujourd'hui je vais être magnifique, ça va être super ». On se lève plutôt en se disant « Qu'est-ce qui va me tomber encore sur la tête aujourd'hui ?» ou « Comment je vais me débrouiller à tel ou tel endroit ?» Voilà, donc la toilette psychique, pour nous, c'est un outil, mais qui peut être praticable par tout le monde, se laver de nos jugements pour mieux s'aimer.
Alors Christine Renaud, vous m'avez dit tout à l'heure que ça faisait un bout de temps que vous faisiez un cheminement intérieur pour au moins vous changer et non pas le monde. Est-ce que vous avez l'impression quand même que dans la société qui nous entoure, ce processus, ce développement personnel rentre un peu mieux dans l'air du temps? Je veux dire, est-ce qu'il est mieux accepté? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui se l'approprient, ce chemin de vie? Vous connaissez sans doute la théorie du centième singe.
Non.
C'est passionnant. Grosso modo, il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites sur certaines îles du Japon avec des singes à qui on a proposé des fruits ou des légumes qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient difficiles à manger. Donc au début, ces singes ont du mal, je crois qu'il faut casser une coque, ils n'y arrivent pas, etc. Ils mettent un certain temps, et puis ils essayent tout, broyage, craquage, je ne sais pas, ils n'y arrivent pas pendant un certain temps. Et puis au bout d'un certain temps, que se passe-t-il? Il y en a un quand même, un marginal, qui trouve la solution pour casser la noix. D'abord, il est rejeté, tout simplement, parce que
il ne fait pas comme les autres.
Et puis quand même, les autres le regardent de travers en disant « Oh, comment il a fait ?» Ils finissent par loucher. Et regarde comment il fait, et cette invention, cette innovation se propage à l'intérieur de la société de ces singes sur cette île. Mmh. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'expérience a montré que bizarrement, dans plusieurs îles attenantes, le même phénomène apparaissait au même moment, ce qu'on appelle aussi en science l'effet de seuil.
Oui.
Donc c'est-à-dire que si peut-être, c'est mon seul espoir dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que s'il y a suffisamment de gens conscients qui font ce chemin de conscience, peut-être pourrait-on éviter que ça dérape ou qu'on allume certains mauvais boutons. Mm. Donc je reviens à ma question. Est-ce que vous pensez que justement ce développement personnel, cette conscience de soi, ça progresse à l'intérieur de la société ou est-ce qu'on en est toujours figé à des combats d'arrière-garde? Vous savez pas.
Je saurais pas vous dire, mais moi, tel que je le perçois, que je le sens, c'est que je me dis que plus on sera nombreux à chercher de la paix pour soi, plus on va rayonner de la paix autour et qu'il faut déjà commencer par soi-même avant de le demander aux autres. Et que la crise extérieure est peut-être là aussi pour nous le rappeler. Je veux dire, tous les événements extérieurs qui arrivent, ce n'est pas une fatalité, c'est aussi pour une prise de conscience de « mais qu'est-ce qu'on fait de notre monde ? Comment est-ce qu'on se comporte dans ce monde pour en arriver là ?» Et que l'humanité soit en recherche de questionnement. Après, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Et il y a déjà plein de gens de partout. Parce que ce qui se passe aussi, mais là, je n'engage que moi, c'est que, sauf vous, fort heureusement, tous les médias sont là pour nous montrer tout le négatif et tout ce qui ne va pas. Mais il y a des choses magnifiques qui se passent dans le monde. Il y a des très très belles expériences. Il y a beaucoup d'amour à plein d'endroits. Mais comme ce ne sont pas des gens qui s'engagent pour aller faire de la publicité pour eux, ça ne se sait pas. Et puis ce n'est pas médiatique. Voilà, ça ne va pas intéresser entre guillemets, quoi. Et que la presse à cet endroit-là joue aussi son rôle de peut-être cacher toutes ces belles expériences. Et me revient un reflet, ce trimestriel, d'une autre lecture de l'actualité qui, elle, amène un autre point de vue sur les recherches, sur les événements extérieurs, quoi. Un événement extérieur, de la même façon que dans l'assise, une douleur de jambe, est là pour nous interpeller sur notre comportement, quoi. Par exemple, la pollution. La pollution, l'homme pollue extérieurement, mais une pollution à laquelle on ne s'attaque pas assez souvent, c'est nos pollutions extérieures. C'est quand même nous, tous nos jugements. Tout le négatif qui est en nous, si on le cultive, on le propage autour de nous. Alors que si on le cultive dans l'autre sens, à laver ses jugements et à être plutôt un être d'amour, ça va rayonner autour de nous. Moi aussi, je fais ce souhait et ce vœu que l'amour rayonne de plus en plus. Mais c'est à chacun de se prendre par la main.
En fait, j'éprouvais le besoin d'être rassuré et que vous soyez capable de me dire « oui ». Il y a de plus en plus de gens heureux, irradiants autour de moi au fur et à mesure que les années passent.
Autour de moi, je dirais oui, puisque dans les gens que je côtoie, ne serait-ce que dans cette école et dans cette recherche, de voir combien l'éclairage sur un problème, sur une difficulté vient de notre fonctionnement personnel et pouvoir aimer ce fonctionnement, ça change à l'extérieur. Donc forcément, ça va irradier. Mais ce sont des petites gouttes d'eau. Mais une goutte plus une goutte plus une goutte, ça fait beaucoup.
Eh ben, sait-on jamais. On peut peut-être faire une dernière petite piqûre de rappel. Donc, ouais. L'atelier de découverte, c'est le mercredi 11 juin à 19h. Vous pouvez essayer un certain nombre de séances à titre gratuit. Alors, vous avez dit à titre gratuit, c'est-à-dire que ça se paye quand même.
Une fois qu'on décide de rentrer dans l'école, au bout d'un certain nombre de temps d'observation, il y a une adhésion, parce que c'est une association, l'école. Hein. Et donc, l'adhésion est trimestrielle. Et là aussi, chacun se repositionne chaque trimestre. On a une soirée spéciale pour ça, en disant bah, finalement ce chemin m'apporte quelque chose, j'ai envie de continuer. Et donc je me réengage pour 3 mois. Voilà. Et chacun est libre de partir ou de rester. Voilà. Mais les séances d'observation sont gratuites. Ensuite, bah, quand on fait partie d'un groupe d'assises, l'enseignement est gratuit. Bien sûr, les enseignants, nous faisons ça à titre bénévole. Par contre, bah, nous allons participer aux frais de location d'une salle et se le partager dans le groupe, quoi.
Mais en général, ça se passe au centre de l'Aube.
Alors nous, notre groupe se réunit au centre de l'Aube tous les mercredis à 21h. Donc un numéro de téléphone, 06 89 44 74 43, si vous êtes intéressé. Et sinon, sur le site de l'Aube.
Eh bien, Christine Reynaud, merci de partager et de nous offrir cette possibilité de progresser dans la vie.
Merci à
merci,
vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
Interview. L'interview du jour.